RCF.
C'est Grand Angle, bonjour. Peut-on encore croire à la résurrection ? C'est le thème de l'émission aujourd'hui préparée en partenariat avec l'hebdomadaire Pèlerin. Les chrétiens ont fêté Pâques et la résurrection et pourtant le monde est à feu et à sang. Comment croire encore ? Les sciences nous expliquent les mystères du vivant et la résurrection échappe à toute définition. Peut-on encore y croire ? Eh bien, on va essayer d'y répondre à cette question en studio avec mes invités. Félicité de Maupoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Pèlerin. Vous avez publié cette semaine une enquête incroyable, Résurrection. Qu'en reste-t-il dans notre société contemporaine ? Un dossier réalisé aussi avec Christophe Chaland. Anne Lécu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes religieuse dominicaine, médecin en milieu carcéral, théologienne, auteur de plusieurs livres, dont le dernier, Tu m'as consacré d'un parfum de joie, paru aux éditions du Cerf il y a tout juste quelques semaines. Julia Vidovic, bonjour. Vous êtes d'origine serbe, théologienne orthodoxe de l'Institut Saint-Serge à Paris, où vous enseignez la bioéthique. Votre travail de thèse a été publié sous le titre « La synergie entre la grâce divine et la volonté de l'homme ». Ça paraît sérieux, mais il y a beaucoup de choses aussi à en retenir. C'est publié aux éditions du Cerf aussi, c'était l'an dernier. Frédéric van der Borg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et psychothérapeute, vous travaillez notamment dans le secteur de la protection de l'enfance. Vous publiez ces jours-ci un livre « Ce bonheur qui vient dans la chair » aux éditions Encre-Toile. Peut-on encore croire à la résurrection ? C'est le thème du jour du Grand Angle, c'est tout de suite sur RCF.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Alors Félicité de Maupoux, incroyable résurrection, le pèlerin pose la question, que s'est-il passé il y a 2000 ans ? Le corps ressuscite-t-il avec l'âme ? Pourquoi même les croyants s'interrogent ? Je ne sais pas si vous avez toutes les réponses. Comment vous avez choisi ce sujet et choisi d'aborder ce sujet ?
En fait, on est parti de chiffres qui nous ont interpellés, de chiffres tirés d'enquêtes d'opinion, qui signifiaient qu'en fait, seuls 58% des personnes se déclarant catholiques croient en la résurrection de Jésus, seuls 10% en la résurrection des morts, et que même du côté des pratiquants, un tiers sont sceptiques sur l'événement de la résurrection de Jésus. Donc, on est parti de ces chiffres assez interpellants pour... essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'était si difficile de croire en la résurrection, en se souvenant évidemment que ça a toujours été dur et qu'on voit dans les évangiles que les apôtres eux-mêmes ont douté, mais un peu en se demandant est-ce qu'il y a des difficultés propres aussi à notre société contemporaine pour croire en la résurrection donc de Jésus et puis en notre propre résurrection.
Comment les pratiquants disent simplement non, j'y ne crois pas, parce que c'est quand même malgré tout au cœur de la foi chrétienne, au cœur du credo.
Ouais, c'était ça aussi qui nous interpellait, c'est que vraiment il s'agit d'un fondement quand même de la foi chrétienne, donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce sujet. Ce qui remonte pas mal, c'est que la résurrection, c'est voilà un objet de foi, donc il y a forcément, c'est normal qu'il y ait du doute qui se mêle à tout ça. Il y a aussi des explications plus générales sur le fait, bien sûr, qu'on est dans une société de plus en plus sécularisée, avec voilà évidemment un processus de déchristianisation, qu'il y a aussi une montée en puissance de l'explication scientifique du monde, et que du coup envisager la résurrection est peut-être particulièrement difficile aujourd'hui, où on explique voilà la plupart des choses, des réalités par la science. Il y a aussi un rapport au corps qui change, c'est ce que nous a expliqué notamment le psychanalyste Jacques Arène, et donc avec l'idée que notre corps serait davantage l'enveloppe de notre esprit, et du coup envisager la résurrection du corps et de l'âme est peut-être particulièrement
compliqué, difficile
aujourd'hui. Un rapport à la mort aussi qui est plus problématique aujourd'hui, avec une mort peut-être plus lointaine, et donc pour penser la résurrection il faut penser la mort. Et donc, si on n'a plus cette étape-là de se confronter à la mort, eh ben, il y a comme un blocage pour envisager éventuellement que l'on puisse ressusciter.
Il y a aussi une difficulté autour des termes et de savoir comment en parler, parce que malgré tout, vous montrez dans votre article que les personnes ont plutôt envie de croire, j'ai presque envie de dire, en tout cas veulent croire qu'il y a quelque chose après la mort.
Oui, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que l'explication disant qu'il y a une domination rationaliste est pas si satisfaisante, parce que justement il y a encore, on regardait dans ces mêmes études, il y a encore plus de 30% des Français qui croient en une vie après la mort. Donc il y a ce désir de croire
que... On ne croit pas à la résurrection, mais on croit qu'il y a quelque chose après.
Il y a quand
même
quelque chose. Et c'est là que c'est aussi assez intéressant, c'est ce que nous expliquait Agnès Charlemagne, qui se chargeait de pastorale auprès des jeunes, qui disait que il y a une confusion sur l'idée de la résurrection, qu'on mélange résurrection et réincarnation. Elle évoquait par exemple une jeune fille tout juste confirmée qui lui disait « je vais me ressusciter ». Il y a même dans le vocabulaire... montrant qu'il y a c'est aussi quelque chose qu'on comprend moins bien, qui est moins, et du coup une grande confusion, en mélangeant notamment avec beaucoup l'influence aussi des spiritualités asiatiques sur ces sujets. C'est ce qu'évoquait notamment Agnès Charlemagne. Et du coup, on a du mal à, c'est une notion qui est devenue assez peut-être plus confuse et plus floue, qu'avant.
Bon, alors on va se tourner vers la théologienne qui va peut-être pouvoir nous donner quelques éléments sur justement comment on peut essayer de définir ce qu'est la résurrection. Avant, simplement préciser, donc vous êtes théologienne orthodoxe, les orthodoxes vont fêter Pâques dimanche prochain, dimanche 28 avril. Léger décalage que vous pouvez nous expliquer, ou alors sinon je le ferai, mais vous pouvez très bien nous dire aussi pourquoi nous sommes catholique et orthodoxe, catholique protestant d'un côté, orthodoxe de l'autre, légèrement décalé sur la fête de Pâques.
C'est en raison des calendriers selon la Pâque juif. En fait, les dates qui sont comptées, c'est donc selon le mois et selon la position de lune qui se détermine la célébration de la Pâque. En tout cas, dans l'Église orthodoxe.
Voilà, dans le calendrier respectant encore le calendrier julien et non pas le calendrier grégorien, qui a créé ce décalage entre les deux calendriers liturgiques.
Tout à fait.
Mais ce qui n'empêche que on est d'accord, enfin, sauf ceux qui n'y croient plus, sur la résurrection. Et ça, c'est un fondement aussi de la foi orthodoxe, comme de la foi catholique et protestante, évidemment.
Parfaitement. Donc il y a même cet adage, en quelque sorte, si le Christ n'a pas ressuscité, notre foi n'a pas de sens. Et ceci est vécu dans l'Église orthodoxe. D'ailleurs, même pendant la période après Pâques, donc pour Pâques et après Pâques, jusqu'à l'Ascension, les chrétiens au sein de nos communautés, de nos paroisses, se saluent par le Christ est ressuscité, justement pour vérifier
cette affirmation.
Ou affirmer cette foi, et la personne répond « Vérité, il est ressuscité ». Donc c'est quelque chose qui est pratiqué, peut-être pour certains comme un rappel, pour d'autres pour vraiment confirmer ce en quoi ils croient véritablement. Donc je suis vraiment surprise d'entendre le sondage qui vient d'être fait, mais je ne pense pas que c'est la même je pense que c'est presque la même chose aussi
dans la communauté
pour
orthodoxe.
Les communautés orthodoxes. Tout à fait, après peut-être que nous on fait pas de sondage de cet ordre-là, mais la résurrection est vraiment en centre, elle est tout le temps même confirmée pendant chaque dimanche, parce que le jour de dimanche, c'est le jour
le
de
rappel.
Pâques. Et donc, c'est quelque chose qui est vécu. Et en même temps, avant la célébration de Pâques, on a une quarantaine, enfin, la période de carême qui est toujours respectée dans l'Église orthodoxe et qui consiste non pas simplement à se priver de certaines nourritures, mais les prières sont intensifiées et tous les jours, il y a des prières particulières pour la période du carême qui sont expliquées. Donc, il y a un cheminement pendant cette période-là qui se fait afin de véritablement s'imprégner de la fête de la résurrection et en même temps la vivre pleinement le jour où elle vient. En même temps, comme je disais, les dimanches sont la confirmation de la résurrection, parce que quand on regarde la célébration de ce qu'on dit la divine liturgie, et si on est attentif par rapport à des prières, on constate que on est déjà dans cette dimension de la résurrection, parce qu'on se rappelle non pas simplement de la croix, mais du fait que nous on se tient déjà à la droite du Fils. Et c'est vraiment cette montée là qui se produit, en fait, à laquelle on est appelé tous à la vivre pendant la liturgie. En sortant, c'est vraiment de
d'être ressuscité.
D'être ressuscité et de témoigner que la résurrection est déjà là.
Alors, pour que la résurrection soit déjà là, faut déjà un tout petit peu y croire. Est-ce que vous comprenez cette question un petit peu de d'interrogation, de doute peut-être à notre époque?
Parfaitement, parfaitement. On vit dans une période où il y a beaucoup de questions qui se posent à la société. Et donc, les chrétiens faisant partie de la société, bien évidemment, ils sont imprégnés. Mais ça montre aussi du fait que le christianisme n'est pas une idéologie, n'est pas quelque chose de figé, mais c'est une vie véritable que chaque être humain est appelé à vivre, et les communautés en tant que telles. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, par rapport à des questions que vous venez de mentionner, dont concerne le développement scientifique, les choses qui nous sont révélées aujourd'hui par différents biais, par la façon même dont nos sociétés se constituent. Enfin, pour certains disent c'est la période post-constantinienne, pour certaines régions. Donc, quand je regarde l'orthodoxie, je ne regarde pas simplement les paroisses qui bien sont sûr. Ici, mais je regarde en venant de Serbie ce qui se produit en Serbie, dans des pays post-communistes, en Russie ou en Grèce. Donc, il y a des manières différentes de vivre l'orthodoxie, et c'est sûr que cette région et chaque société pose de nouveau la même question. Où es-tu? Est-ce que tu crois? Et comment tu te rapportes par rapport à ta foi? Et comment, bien évidemment, les communautés en tant que telles la vivent?
Anne Lécu, c'est difficile de croire à cette résurrection annoncée le jour de Pâques.
C'est difficile déjà pour les femmes qui arrivent au tombeau et qui se retrouvent devant un tombeau qui est vide. C'est-à-dire que c'est d'abord un manque, la résurrection. C'est d'abord l'absence de preuves et c'est d'abord un tombeau vide. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, on peut aussi imaginer que ces femmes, elles sont dans une forme de stupéfaction. On a enlevé le corps de Monseigneur et je ne sais pas où on l'a mis, demande Marie-Madeleine au jardinier qu'elle croise. Et tout le mystère de la résurrection retransmis par les premiers évangélistes, c'est d'essayer de suggérer que par le nom qui est le sien que va prononcer ce jardinier qu'elle va reconnaître comme étant le Christ, elle le reconnaît. Elle reconnaît que quelque chose qui était mort n'est pas mort. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, comment croire en la résurrection aujourd'hui, il me semble que, en essayant d'employer un langage contemporain, ce serait comment croire que la mort n'est pas la fin de tout. Comment croire qu'il n'y a pas que du destin dans nos vies, qu'il y a quelque chose de neuf qui peut surgir aujourd'hui, que j'ai pas prévu, et qui peut retransformer, redonner de la force à ce qui n'en avait pas. Comment, au cœur du désespoir, et on pense aux chrétiens du Sri Lanka qui évidemment ont été assassinés ces jours-ci, comment, au cœur de ce profond désespoir, incompréhensible et scandaleux, quelque chose de neuf émerge? Le neuf en question, ça peut être tout simplement une forme de vie possible pour des gens qui croyaient qu'elle n'était plus possible. Ça peut être des liens nouveaux qui surgissent, des solidarités nouvelles qui surgissent et qui signifient qu'aujourd'hui, la résurrection commence. La résurrection, c'est pas seulement la vie après la mort. Maurice Zundel aimait à dire que ce qui est important n'est pas de savoir si nous serons vivants après la mort, mais si nous avons été vivants avant la mort. Et la question que suggère la foi en la résurrection, c'est comment aujourd'hui la vie, ma vie, est plus forte que la mort. Comment aujourd'hui, dans ma vie, les forces d'avenir sont plus fortes que les forces de mort. Et j'aime aussi beaucoup rappeler que la résurrection, c'est au cœur du pire qu'il s'agit d'y croire. C'est-à-dire que c'est précisément quand il n'y a plus de raison de croire que la résurrection s'annonce. C'est quand il n'y a plus de raison d'aimer que l'amour est plus fort. C'est quand il n'y a plus de raison d'espérer. Et Dieu sait si, devant la mort du Christ et le Christ mis dans un tombeau, il n'y a plus de raison d'espérer. Et pour autant, c'est au cœur de ce désespoir quelque chose, et peut-être que ce quelque chose, c'est la présence de ces femmes qui, pour autant, reviennent avec leurs aromates pour embaumer le corps de leur Seigneur, signifier par là que l'odeur de la mort n'aura pas le dernier mot. Peut-être que c'est cette petite pointe-là qui est l'espérance dans la résurrection.
Mais cette espérance, vous nous en parlez bien, hein, de cette résurrection déjà là, déjà présente dans nos existences. En même temps, quand Julia Vidovitch nous rappelle le sens du dimanche, ça veut dire qu'il faut peut-être célébrer cette résurrection pour ne pas la perdre de vue, comme nous l'indiquent les sondages?
Sans doute que la célébrer, ça nous aide à nous en souvenir. Encore faut-il que nos célébrations la portent, cette espérance. Et puis parfois, il se peut qu'elle ne la porte pas. Et ça aussi, il faut pouvoir le dire et l'entendre. Donc, c'est à chacun d'entre nous, il ne s'agit pas de jeter la pierre à quiconque, c'est à chacun d'entre nous de porter cette espérance, et pas seulement dans la célébration liturgique, mais dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que, en régime chrétien, le service de la liturgie et le service du frère sont les deux jambes sur lesquelles on marche. Et l'une ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est donc à la fois quand nous allons permettre à quelqu'un d'autre d'espérer dans sa propre existence, et en même temps que nous allons permettre, par nos célébrations préparées avec soin, à d'autres d'espérer dans la résurrection du Christ, que nous pourrons peut-être porter quelque chose de ce message-là, de cette espérance-là, de cette foi-là, sachant qu'en même temps, il se peut parfaitement que nous n'ayons aucune conscience de la force de ce que nous portons. Et nous pouvons parfaitement annoncer la résurrection tout en étant nous-mêmes dans une forme de nuit par rapport à ce qu'on annonce. Ça aussi, ça arrive.
Et traverser des difficultés comme au Sri Lanka,
vous le
disiez à l'instant. Frédéric van der Borg, dans cette question de la résurrection et aussi dans l'expression de notre foi, on parle souvent aussi de la résurrection du corps, des morts, de la résurrection de la chair. Alors, vous travaillez un peu à ce lien entre l'esprit et l'âme, la chair. Comment vous en parlerez?
Effectivement, j'ai eu la chance d'être formé à l'aptonomie, qui est la science de l'affectivité, qui a été fondée par un médecin hollandais qui était agnostique, mais qui a découvert la force de l'affectivité alors qu'il était pris dans des wagons de déportation vers les camps de la mort, parce qu'il avait des amis juifs. Et là, il s'est rendu compte dans cette terrible rationalité du nazisme, il s'est rendu compte qu'il y avait dans l'être humain une force de vie, une force affective qui pouvait dépasser cette folie, je dirais, rationaliste du nazisme. Et Franz Wellmann disait, on parlait de l'influence du rationalisme, Descartes disait « je pense, donc je suis », et Wellmann retrouvait l'intuition finalement du peuple juif, des Hébreux, en disant « je ressens, j'éprouve, donc je suis ». Et je crois que la résurrection, c'est d'abord une expérience. C'est parce que j'éprouve dans mon corps, dans ma chair, des forces de vie absolument inouïes, inconnues, que tout d'un coup, il y a quelque chose de la vie de Dieu en moi qui gagne. Je repensais à ce que disait ce pasteur protestant Dietrich Bonhoeffer, juste avant d'être exécuté par les nazis. Il a eu cette phrase magnifique, « La victoire est certaine ». La victoire est certaine. Ça, il ne pouvait pas le dire s'il n'avait pas en lui l'attestation de cette présence du ressuscité. Et cette présence du ressuscité, elle s'entend dans toutes les cellules de notre corps, dans notre voix, dans notre manière d'être. Et quand on vit en ressuscité, on ressuscite les autres. La résurrection, c'est contagieux. La résurrection, c'est une expérience. Je crois que je pense qu'au fond, et c'est un peu tout le propos de mon livre, parce que pour moi, il n'y a aucune opposition entre science et foi. La foi, peu de foi, disait Claude Bernard, éloigne de Dieu, peu de science éloigne de Dieu, plutôt, beaucoup de science en rapproche. Parce qu'il n'y a aucune opposition à cette recherche de la vérité qu'on a dans la science, et puis cette démarche de foi qui nous met au contact, pour nous chrétiens, avec le Christ ressuscité. Parce que la foi n'a rien à voir avec la croyance. Des croyances, on en a tous. On est tous encombrés d'a priori, de certitudes, de croyances. Et je dirais que c'est des gens, moi j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'amis athées, des fois je trouve qu'ils ont plus de foi et de confiance que moi, mais les athées, ils ont plein de croyances, autant que nous. Mais la foi, ça n'a rien à voir avec la croyance. Absolument rien à voir. Et c'est peut-être ça, le mélange des difficultés des personnes. Si on cherche dans la résurrection comme un objet à croire, on va se tromper. Mais si c'est à travers ce contact avec le Christ, dans la confiance, à ce moment-là, il nous transmet son expérience.
Julia Vidovitch, vous vouliez réagir?
Oh oui, justement, rajouter, parce que vous m'avez fait penser en disant « je ressens ». Donc je suis, et un auteur orthodoxe assez connu, qui a d'ailleurs vécu en France, Paul Evdokimov, disait « j'aime, donc je suis, et je suis aimé, donc je suis ». Parce que les résurrections est justement ça, être intégré à la vie divine, et c'est entrer dans la vie trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et donc se retrouver dans cette communion d'amour qui ressuscite, et qui justement fait entrer dans l'éternité.
C'est la victoire de l'amour.
Anne-Écu.
Alors je mettrai un petit bémol, parce qu'il me semble que la raison est très importante dans cette histoire. Et donc que l'affectivité, le danger aujourd'hui, ce serait qu'on soit uniquement dans une sorte d'éprouvé. Alors que précisément la foi, c'est quand on ne n'éprouve rien et que pour autant on pose un acte de foi que quelque chose d'assez authentique arrive. Et donc je pense que peut-être que nos contemporains, et moi la première dans le lot, je ne les mets pas du tout à l'écart de ce que je crois, nous aimerions parfois ressentir en nous les effets de la résurrection, et il se peut que nous ne les ressentions pas. Pour autant, le fait de croire avec une forme de rationalité et de décider dans un acte de foi que ce ne sera pas le destin qui aura le dernier mot et que nous allons œuvrer pour qu'il en soit ainsi, appartient pour moi à la foi dans la résurrection. Et que si le Christ, c'est la parole de Dieu faite chair, le logos et tout ce qui comporte de rationalité dans le logos et d'intelligence et mérite d'être aussi au service de la résurrection. Et donc attention de ne pas trop séparer trop vite ce qui serait de l'ordre de l'affectif et de l'ordre de la raison.
Tout à fait, c'était pas du tout le sens de mon propos. Au contraire, hein, d'ailleurs, dans la perspective de Melman, c'est l'affectif qui irradie la raison. Sinon, c'est du sentimentalisme et on est complètement à côté de la plaque. Non, la foi, c'est bien sûr un acte et c'est tout à fait rationnel. Hein, c'est-à-dire que le fait de ressentir, d'éprouver, c'est comme ça que la parole et l'intelligence se développent chez l'enfant, passe par justement cette confiance dans ce qu'on éprouve et dans ce qu'on ressent. Et c'est ça qui fait qu'après, la rationalité prend tout son sens. Hein. Mais une rationalité qui serait simplement mentale et coupée de notre corps, elle devient schizophrénique ou dualiste. Voilà.
Mais en même temps, Anne Lécu, comment on peut, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on échange là depuis quelques minutes, se dire que oui, c'est les forces de vie qui nous habitent, qui nous montrent un peu ce signe de la résurrection face aux personnes en difficulté. Et Dieu sait si vous en croisez dans votre travail notamment, on peut pas dire voilà, il faut croire à la résurrection parce que
non,
justement c'est ça qui va vous raffermir, vous allez l'éprouver. Comment?
Non, parce qu'en fait je pense qu'il y a deux champs différents. Il y a le champ de ce qu'on est en train de faire là, de débattre à froid, si j'ose dire, de la résurrection, et là il s'agit de donner des mots à d'autres pour dire leur expérience de foi. Et donc c'est chacun ce que nous faisons à notre manière, avec notre propre histoire, on va donner des mots différents et chacun pourra se saisir de telle ou telle expression pour dire, ah bah oui, c'est comme ça que je peux dire ma foi. Quand on est face à quelqu'un qui va mal, comme je viens de passer la nuit à Fleury-Mérogis, donc il ne s'agit pas de faire un discours, bien entendu que non, il s'agit d'écouter les gens. Et je crois que croire que Dieu ne nous abandonne pas, ça passera en vrai quand quelqu'un ne vous abandonne pas.
C'est ça.
Voilà. C'est-à-dire que si moi j'ai ce que j'essaye et parfois ça ne marche pas. C'est-à-dire que très concrètement cette nuit, il y a une dame auprès de laquelle je crois que j'étais assez présente et un monsieur où ça a complètement foiré. J'étais pas là ou lui non plus. Enfin bref, ça n'a pas marché. Donc ça ne marche pas à tous les coups, si je puis dire. Mais la question c'est d'être là pour l'autre parce que la résurrection, en fin de compte, c'est une forme de présence. Et si je suis présent à l'autre, quelque chose de la résurrection advient. Si je suis présent à ma vie, quelque chose de la résurrection advient. Et donc là, on n'est plus dans le discours, on est dans la manière d'être, dans la force d'être.
Le monde vers le ciel. En toi la création.
Il est vraiment ressuscité, chanté par les fraternités monastiques de Jérusalem. Peut-on encore croire à la résurrection? C'est Grand Angle sur RCF aujourd'hui avec Félicité de Maupoux, Anne Lécu, Julia Vidovitch et Frédéric Vanderborg.
Grand Angle, Christophe Héningue.
Dans cette enquête que vous avez menée, Félicité de Maupoux, on sent que cette question de la résurrection, alors on en débat depuis tout à l'heure, on a quelques pistes. C'est dommage, on aurait dû faire un sondage avant, au début de l'émission et à la fin de l'émission, voir si on avait réussi à convaincre un peu du sens de la résurrection. Agnès Charlemagne, donc, hein, qui est aussi proche des jeunes, dit bien la difficulté de témoigner de la résurrection.
Oui, elle dit en fait qu'une des... Une des caractéristiques peut-être aussi aujourd'hui dans la manière d'appréhender la résurrection, c'est que elle identifie chez les jeunes qu'elle accompagne le fait que ça soit quelque chose d'assez, un concept assez sec, un peu vidé de sa vitalité. Elle dit on a peut-être tendance à le rabâcher au credo tous les dimanches, mais que pour elle il faudrait appréhender la résurrection un peu en se la réappropriant. Et donc c'est ce qu'elle fait un peu dans ses ateliers auprès des jeunes. Elle les incite à en parler et à notamment en mélangeant des jeunes collégiens ou lycéens qui ne croient pas avec des croyants et un peu en les challengeant, en leur demandant de parler de la résurrection, de parler de leurs croyances. Et elle dit, il y a même des nouvelles manières de nommer la résurrection. C'est un peu ce que vous disiez, Anne Lécu, de choisir des nouveaux mots. Et pour elle, elle trouve que c'est un moyen d'enraciner cette croyance et de sortir du concept un peu sec que ça peut devenir peut-être quand c'est très
dans une définition trop théologique. Julia Vidovitch, est-ce qu'effectivement il faut inventer un certain vocabulaire peut-être plus accessible, ou après tout la résurrection reste un mystère?
D'un côté, oui, effectivement, ça reste quelque chose qui demande à être révélé chaque fois de nouveau et pour chacun d'entre nous, parce que on est appelé à avoir une relation personnelle avec Dieu, en même temps étant dans une communauté. Et ça pourrait être une bonne façon de le faire, en demandant à des personnes de réinventer, de dire les mots pour exprimer quelque chose qui se vit. Après, dans l'Église et dans la théologie, peut-être des pères grecs qui m'est assez proche, cette expérience reste de l'ordre de ce qui ne peut pas être dit. Et ça s'exprime même par les chants. C'est assez intéressant quand vous vivez un petit peu les chants orthodoxes dans l'Église. Il y a un moment où les paroles cessent et on entre dans ce qu'on appelle l'apophatisme. Alors ça dépasse toute façon de dire les choses, mais il y a une présence qu'on répète terirem, terirem. Ça veut dire l'esprit est là, il embrasse tout, et on est tous pris dans quelque chose qui nous dépasse, mais que on vit réellement, et c'est assez intéressant de participer peut-être pour les justement la fête de Pâques dans des paroisses orthodoxes. Il y a énormément de mouvements. D'un côté, oui, il y a de l'encens, il y a des habits liturgiques particuliers, les icônes tout autour, les chants, énormément de mouvements, de prosternation qui se fait. Et à un moment, tout le monde est appelé à sortir de l'église, il y a des bougies qui s'allument et on frappe à la porte et on entre dans l'église en chantant le Christ est ressuscité. Et donc, ça nous fait entrer dans quelque chose qui est chaque fois nouveau, même si c'est une célébration qui se répète chaque année, on sait ce qui va advenir, on peut lire même et se préparer à des textes, mais au niveau de l'expérience, c'est chaque fois nouveau, parce que nous, on vient autrement à chaque célébration, et à chaque célébration de Pâques tous les ans, et même on voit par rapport à des enfants comment eux, ils le vivent. Ils sont là, ils sentent la joie et après ils attendent, il y a des œufs qui sont coloriés, donc on mange, il y a le côté matériel de la vie et en même temps quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, de la communion, de quelque chose justement qui ne peut pas être formulé et dit, si vous voulez, théologiquement. On peut en expliquer, dire des choses. On essaie de le faire, mais c'est vrai que chaque année, toute cette période de préparation pour Pâques, la Pâques et après Pâques, donne une dimension autre au vécu et puis se
au vécu
vivre
autour de ce mystère.
Ce mystère, justement. Mais qu'on essaie, chacun essaie de, après de le dire.
De s'approprier.
Tout à fait.
Anne Lécu.
Je trouve que c'est très
très important ce que vous dites, parce que ça nous rappelle aussi que c'est un don, la résurrection, que c'est pas moi qui en suis la source, mais que j'ai à la recevoir, non seulement de Dieu avec tout cet aspect mystérieux sur lequel on ne peut jamais mettre la main, et en même temps de la tradition qui nous précède. Et donc c'est vrai que la liturgie pour ça, elle est magnifique, la liturgie de la vigile pascale, où nous faisons mémoire de ceux qui nous ont précédés et qui ont erré comme nous aussi au désert, hein. On fait mémoire des récits de la Genèse, d'Abraham, des prophètes qui ont dû quitter la Terre Sainte parce qu'ils étaient chassés par les envahisseurs, et nous sommes de ce même peuple qui doit à chaque génération réapprendre à croire. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire sur ce que vous disiez, sur les mots en fait nécessaires, moi je trouve que c'est très important aussi de se souvenir de cet aspect, comment dire, très glorieux, très festif, et de se souvenir que dans la tradition hébraïque, la gloire, c'est ce qui a de la densité et du poids. Et donc finalement, dans nos existences, quelque chose de la résurrection, c'est sans doute quelque chose qui a de la densité, une forme de présence, mais des moments que personne ne pourra jamais nous voler. Voilà. Quelque chose qui a eu lieu, un moment comme quand on tombe amoureux, comme quand on reçoit un cadeau qu'on n'aurait pas imaginé, et que de toute façon, quoi qu'il nous arrive, ça, personne ne nous le prendra jamais, parce que ça a existé. Et que même si on le perd, d'une certaine manière, on ne le perd pas. Et je pense que la résurrection, c'est ça, c'est cette densité-là.
Julia Vidovitch, et après...
Oui, effectivement, vous me faites rappeler un auteur que j'aime beaucoup, qui est Christian Bobin, qui dit justement les morts sont tombés amoureux tellement qu'ils nous donnent plus de nouvelles. Donc le fait que on reste coupé en quelque sorte. Mais en même temps, je me rappelle un beau passage et un beau témoignage d'un métropolite de notre génération, donc Antoine Blum, qui a rencontré une fois une famille des Russes blancs qui se sont retrouvés à Londres et qui sont venus lui raconter leur histoire de vie. Donc ils étaient sauvés par une voisine qui ne savait pas, enfin elle se sacrifiait pour eux sans le savoir qu'elle va survivre ou pas. Et donc eux, avec leur mère, ils étaient enfants à l'époque, ils se sont sauvés, ils sont venus, ils lui ont raconté toute cette histoire, ce cheminement. Ils ont dit, vous savez, notre vie n'a plus maintenant le même sens qu'avant, parce que nous, on sait que quelqu'un a donné sa vie pour notre vie. Donc la vie est quelque chose d'extrêmement précieux. Et donc il a fait le lien avec le Christ, et effectivement la mort et la vie sont tellement unies par cette résurrection, et ça donne, la mort donne le sens à la vie, et la vie donne le sens à la mort.
Frédéric Vandenborg, ce lien justement entre vie et mort, c'est quelque chose aussi qui traverse votre livre. Hein. J'ai presque envie de dire, oui, ces fragilités que nous portons, qui sont traversées par un élan de vie malgré tout.
Oui, c'est ça. C'est vraiment dans les moments où on est les plus fragiles, au moment de la naissance, au moment de la mort, que tout d'un coup se révèle quelque chose de plus intense de nous. Et c'est vrai que dans mon livre, je raconte une expérience qui m'a assez bouleversé. Et là, j'ai appris plein de choses à travers cette jeune femme, Cécile, qui était venue me voir pour faire une psychothérapie, une aptopsychothérapie. Puis au cours du cheminement, elle m'apprend qu'elle a un cancer au poumon. C'était tout à fait surprenant. J'étais un peu embêté parce que je ne me sentais pas du tout compétent pour l'accompagner dans cette étape. Et puis voilà, on a fait le chemin ensemble. Et progressivement, ensemble, elle m'a aidé. Ensemble, on a regardé, on a osé regarder en face cette inéluctable qui arrivait, c'est-à-dire cette limite de la mort physique qui arrivait. Et c'était extraordinaire, ce chemin de vérité qu'elle a fait, ce chemin de confiance, parce qu'elle l'a nommé comme ça. Et la dernière séance que j'ai vécue avec elle, quelques jours avant sa mort, a été absolument extraordinaire. C'est-à-dire, elle m'a fait même un dessin où on voyait que toutes ces... Parce qu'elle était défigurée par le cancer, hein, Et elle m'a fait un dessin où en fait, les stigmates... où elle a représenté son corps, mais où il n'y avait plus les stigmates du cancer, mais il n'y avait plus que tout son corps un peu dématérialisé d'une certaine manière, mais qui était tout tourné vers la lumière. Et elle a été pour moi témoin de cette résurrection qui déjà venait avant même, c'était quelques jours avant sa mort.
Voilà. Allez-y.
Et je pense que je rejoins ce que disait Anne Lécu, c'est-à-dire c'est dans les situations de grande détresse que ça met, de grande misère ou d'exclusion sociale, que ça met les êtres à nu. C'est-à-dire tout ce qui est un peu superficiel en nous, tout ce qui est un peu mondain disparaît. Et du coup apparaît la vérité de la vie, la vérité du vivant. Voilà.
Mais d'ailleurs, Anne Lécu, enfin on l'a déjà évoqué depuis tout à l'heure, il y a tout se passe dans la relation, relation à Dieu, relation aux autres.
Oui. Il me semble que, oui, si on parle de la résurrection de la chair, c'est dont il s'agit dans notre credo, c'est quoi cette chair? Je crois que c'est pas, alors pardonnez-moi d'être trivial, c'est pas la résurrection de la viande, j'ai envie de dire, mais c'est malheureux comme expression. C'est-à-dire que nous n'allons pas ressusciter boiteux...
avec nos petites misères.
Avec nos petites misères, la résurrection de la chair.
Défauts.
Qu'est-ce que la chair? Peut-être que la chair a quelque chose à voir avec la relation que nous tissons les uns avec les autres. Qu'est-ce qui fait que Marie-Madeleine reconnaît le Christ? C'est par le ton de sa voix qui lui évoque sans doute toutes les rencontres qu'elle a pu avoir avec lui. Parce que d'emblée, elle ne le reconnaît pas. Donc ça veut dire que son aspect extérieur est sans doute un peu différent de celui qu'il avait avant. Et donc la chair, c'est autre chose que le corps dans sa matérialité. C'est
d'ailleurs,
sans doute...
il lui demande aussi de ne pas,
exactement,
pas être touché. Demande...
En même temps, avec Thomas, il va dire « mets ta main dans mon côté ».
C'est encore autre chose.
Mais, enfin, il dit « mets ta main dans mon côté ».
Tout ça est très pédagogique.
Exactement, mais en fait, le texte ne dit pas que Thomas le fait.
C'est vrai.
Le texte ne dit pas que Thomas le touche. Et en tout cas, il y a sans doute quelque chose qui est un peu différent entre la chair et le corps. Donc ça, c'est des subtiles nuances des textes. Mais peut-être que justement, la chair, c'est le corps débarrassé de ce vieillissement, de ce qui l'empêche. De... La chair, c'est cette densité de présence qui existe uniquement dans la rencontre. On n'est pas présent pour rien, ni pour personne. On est présent pour quelqu'un d'autre. Que ce soit... pour le monde, pour les autres ou pour Dieu. Mmh. Et donc, il me semble que, oui, ça, il s'agit pas seulement de croire en la résurrection, mais c'est bien de croire en la résurrection de la chair. Donc, c'est qu'est-ce qui, de nos vies, de notre être dans son essence la plus profonde, en fait.
C'est formidable ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on sait de plus en plus aujourd'hui qu'on est des êtres de relation, et dès le début, on le voit chez le bébé. C'est-à-dire le bébé, même dès la conception, il est tout tourné vers l'autre. Le bébé humain, il naît très prématuré. Hein, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle la néotonie de l'être humain. Hein. Un petit poulain, quand il naît, au bout de quelques minutes, il est sur ses pattes. Le petit humain, non, il est comme handicapé, mais il a en lui tout ce désir, tout ce germe de vie, et il cherche d'emblée la relation à sa maman, à son papa. Il est complètement pris par ça. Il est déjà un être de relation. À une intensité plus. Et c'est assez extraordinaire, d'ailleurs, ce lien entre la résurrection, il faut en parler, et Noël, c'est-à-dire l'arrivée, l'apparition de Dieu dans un petit humain, dans un bébé, et dès la conception.
Mais en rappelant bien que dans la foi chrétienne, c'est le mystère pascal qui est premier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Noël est une fête qui va être construite beaucoup plus tard dans l'évolution de l'histoire de l'Église. La première des fêtes, c'est Pâques. Et en fonction de cette fête de Pâques, les chrétiens vont signifier que l'incarnation du Christ annonce déjà sa mort et sa résurrection. Mais c'est comme à rebours, c'est-à-dire c'est informé par le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Et ne parlons jamais seulement de la résurrection, c'est bien toujours de la mort et de la résurrection dans une seule mystère uni, que dans un second temps va émerger la nativité. Et d'ailleurs, dans l'offrande des mages à l'épiphanie, les mages amènent quoi? De la myrrhe, qui est ce parfum avec lequel sera embaumé le Christ à sa mort, comme si déjà la mort était annoncée dans le berceau.
Je crois qu'effectivement, il ne faut pas faire de césure entre la croix et la résurrection. C'est un même mystère.
Non,
et moi, je dois dire, cette année, là où j'ai peut-être plus vécu cette sensation de la résurrection, c'est ce Vendredi Saint, avec ce chant qui est monté dans la petite communauté paroissiale où on était,
Allez, vous avez le temps de vous en souvenir pendant ce temps-là. On écoute une autre musique.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της έντης μνήμασι ζωήν αρισάμενος. Χριστός Ανέστη Χριστός Ανέστη.
Le Christ est ressuscité des morts, tropère de Pâques, chanté par Divna et un chœur byzantin Mélodie. Peut-on encore croire à la résurrection? C'est la question qu'on se pose à grand angle aujourd'hui sur RCF avec Félicité de Maupou, Anne Lécu, Julia Vidovitch et Frédéric Vanderborg.
Grand angle, Christophe Hénin.
Le Christ est ressuscité des morts, c'est ça qui est important aussi, Julia Vidovitch, c'est-à-dire il revient du royaume des morts.
Tout à fait, et même en vous écoutant parler tout à l'heure, échanger, j'ai pensé à cette admirable fresque qui existe dans une des églises à Istanbul, Khorasan, dans la terre des vivants, qui représente justement le Christ descend dans enfer, qui en fait la fresque, l'icône de la résurrection. Donc ça veut dire que la mort a été vaincue, que tous ceux qui sont morts sont déjà ressuscités en Christ et que le christianisme réellement ne connaît la mort. Enfin, la mort n'a pas le dernier mot. Donc elle a été vaincue, elle est présente parce que on meurt réellement, mais ontologiquement, peut-être si je peux utiliser les grands mots que maintenant il faudrait redéfinir, elle n'existe plus en Christ.
Anne Lécu, cette dimension de la mort et peut-être de nos fragilités, de nos blessures, de tout ce qu'on doit parfois souffrir, endurer.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cette icône de la résurrection, où le Christ descend dans les enfers, en fait, on en lit déjà un texte à l'office des lectures, à l'office des ténèbres du samedi saint, un grand sermon de saint Épiphane qui dit que le jour du grand silence du samedi saint, où rien ne se passe sur le plan liturgique, il n'y a rien, il n'y a pas d'office, etc. Le Christ descend dans les enfers, chercher un par un tous ceux qui l'attendaient depuis des siècles. Ça veut dire qu'il descend dans nos enfers. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans nos vies qui ne soit étranger à sa visite et que nos placards les plus fermés à double tour peuvent être visités par sa présence. Et c'est ça la victoire de la résurrection. C'est qu'il peut tout supporter, tout endurer, tout visiter pour aller chercher un par un tous ces instants de nos vies qui pourraient être enfermés dans les enfers. Pas seulement des personnes mortes, mais dans nos vies actuelles, sauver ce qui déjà est perdu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, si on continue dans cette logique, la victoire du Christ sur la croix, pour faire le lien entre vraiment le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est qu'il accepte de mourir en étant confondu avec les coupables. C'est-à-dire que à l'heure du vendredi, lorsque le Christ est cette année avec l'évangile de Luc, on l'a entendu, il est entre deux bandits, il meurt hors de la ville, et donc il porte la malédiction des coupables afin de ne pas les laisser, les coupables, seuls avec leurs fautes et seuls avec leur mort. Le Christ sur la croix du vendredi, c'est celui qui nous rejoint à l'heure de la mort pour que nous ne mourions pas seuls. Et du coup, il emmène chacun d'entre nous dans la vie de Dieu par sa victoire. Mais on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Il prend sur lui la malédiction pour que nous soyons déchargés de la malédiction, ce qui fait que d'une certaine manière, il sépare dans notre mort la mort de la malédiction de la mort. Il nous reste la mort, nous allons tous mourir, mais ce n'est plus une malédiction parce que le Christ à porter cette malédiction. C'est pourquoi l'Apocalypse va dire, dans une expression un peu confuse, enfin compliquée pour nous aujourd'hui, c'est la seconde mort. Peut-être bien que la seconde mort, c'est la mort de la mort. La mort est morte quand le Christ est mort.
Frédéric Vanderborg.
Oui, c'est formidable ce que vous dites. Ouais. Je pense que, au fond, on est tous marqués par la peur. Hein, la peur nous marque, nous empêche aussi le déploiement de ce qu'on est au niveau ontologique, au niveau de notre être. Et je crois que l'expérience de la résurrection, qui est une expérience progressive par la foi, vous l'avez dit, c'est par la foi, c'est dans la confiance que cette expérience se fait, eh bien, elle nous délivre de la peur. Progressivement, de plus en plus. Moi, je pense que ça a été très... Je crois qu'il y a eu une bascule dans ma vie quand, adolescent, j'ai vécu une période où j'avais extrêmement peur de la mort. Voilà. Et puis, un jour, lors d'une session entre chrétiens, j'ai découvert que le Christ n'était pas simplement une figure morale, un idéal, mais c'était vraiment celui qui me ressuscitait et qui me faisait entrer en communion avec l'univers tout entier, voilà, à la manière d'un Thiers de Chardin. Et je crois que, du coup, cette délivrance de la peur, c'est ça le signe qu'on commence à pouvoir attester de la vie du ressuscité en nous. Voilà. Mais c'est jamais fini.
Ça veut dire un écu?
Oui, alors, oui et non. Je comprends ce que vous dites. Et en même temps, le Christ, à l'heure de sa mort, il dit à son père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc, si nous avons peur, eh bien, il est de notre côté avec nos peurs. Ça n'empêche pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tant mieux si, dans un cheminement personnel, on arrive à avoir suffisamment de liberté pour quitter la peur. Tant mieux. Et je pense que vraiment, la résurrection, comme vous le dites très bien, elle est à l'œuvre là-dedans. Et puis, ceux d'entre nous qui n'y arrivent pas, pour mille raisons, parce que la vie est comme ça, le Christ est de leur côté avec leur peur, avec leur doute, avec leur nuit. Et c'est ça qu'il sauve. Et c'est pour ça qu'il va dans les enfers. Et donc, vraiment, n'ayons pas peur
d'être nous-mêmes.
N'ayons pas peur d'avoir peur. N'ayons pas peur d'être nous-mêmes. N'ayons pas peur d'être devant lui comme nous sommes, en lui disant, écoute, tu nous prends comme on est, et voilà.
Oui, je veux rejoindre témoignage, parce que nous, on vient de fêter les rameaux, le samedi de Lazare, et on voit le Christ pleurer devant la mort de son ami. Donc, la mort est une véritable tragédie.
Bien sûr.
Et
que
il faut préserver. Ce fait-là, que c'est la tragédie.
On ne peut pas nier.
Mais voilà, mais qu'elle n'a pas le dernier mot. Et donc, réellement, on peut le vivre. Et en même temps, le Christ, dans Gethsémani, il dit que cette coupe s'éloigne de moi parce que je ne veux pas mourir. Parce que la vie est un véritable don et c'est une grâce de pouvoir vivre et d'en être conscient. Et en même temps, en deuxième lieu, dire que ta volonté soit faite. C'est qu'on remet aussi notre vie à quelqu'un d'autre.
Voilà, et cet acte de foi dont vous nous parlez, c'est pas seulement, j'ai envie de dire, dans les instants derniers. Enfin, vous expliquez dans un journal, pour ne pas le citer, dans La Croix, le règne qui vient, c'est l'instant présent. Julia Vidovitch, expliquez-nous un peu.
Présent, c'est justement le don. Être conscient que de cette grandeur de la vie du présent et à chaque moment. Donc c'est en quelque sorte, il y a les pères spirituels qui parlaient souvent se rappeler de la mort, non parce qu'ils sont nihilistes, parce que voilà, mais parfois c'est en ces moments de difficulté qu'on se rappelle de la grandeur de la vie, et c'est dommage qu'on ne soit pas conscient de cela en chaque moment de notre vie. Et justement, c'est peut-être ça, le rappeler constamment, de dire voilà, c'est l'éternité, c'est le moment qui m'est donné à chaque moment de ma vie.
La résurrection, c'est la vie donnée, Anne Lécu.
La résurrection, c'est la vie donnée au jour le jour. Et c'est très beau ce que vous dites. C'est aussi, quand on désespère, se souvenir que de désespérer de soi, c'est aussi une manière d'espérer en Dieu, en fait. Et donc,
on en revient à cette dimension relationnelle.
Voilà, c'est toujours un peu...
Ne pas perdre le fil.
Ne pas perdre le fil et qu'il nous prend comme nous sommes et que... quand il a deux larrons, un à gauche, un à droite, et qu'il y en a un qui dit « accueille-moi », il lui dit « pas seulement je t'accueillerai ce soir en fin d'après-midi, maintenant, aujourd'hui, tu es avec moi dans mon royaume. Maintenant, donc, le
encore
règne, c'est le règne
croix.
Sur la croix, c'est le règne maintenant. Et encore une fois, la vie éternelle qui nous est promise dans la foi, c'est maintenant qu'il faut que nous puissions tenter de la vivre. C'est pas ni demain ni après-demain. C'est une manière d'être présent à notre existence.
Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas se délivrer soi-même de la peur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le Christ habite nos peurs avec nous. Il y a que son amour qui nous délivre. Et c'est de plus en plus le fait de faire cette expérience que c'est un autre qui vit en nous et qui peut nous délivrer des effets paralysants de la peur. C'est ça l'expérience de la, me semble-t-il, de la foi. Donc je suis tout à fait d'accord.
Allez-y, Julia.
L'apôtre Paul dit la foi, l'espérance passera et l'amour,
la charité,
restera. Ça, en fait, qui nous constitue.
C'est ce qu'on disait. La résurrection, c'est la victoire de l'amour en nous. Et c'est vrai que des fois, l'amour a du mal.
Qu'est-ce qu'on peut dire alors, Julia Divovitch, pour convaincre de croire en la résurrection? C'était notre question du départ.
Convaincre, c'est assez intéressant. Je ne pense pas qu'on peut réellement convaincre. On peut faire ce que Dieu a fait, inviter. Oui. Et c'est dit dans les évangiles, viens et vois, participe. Soit participant à ta vie, soit participant peut-être dans ton travail, dans tout ce que tu vis dans ta famille, où tu es sollicité, sois là, sois présent. Et finalement, si tu veux inscrire ce parcours dans celui de l'Église, on est tous les bienvenus, on est tous appelés à s'incarner et entrer dans la vie. Et puis voilà, il y a que cela. Et c'est après, à partir de notre propre expérience, qu'on pourra en témoigner. Autrement, c'est de l'idéologie.
Anne Lécu ?
Je crois que c'est en vivre. Je crois que c'est en... Comme vous le dites, je crois pas qu'on puisse convaincre quiconque. C'est si nous tentons de vivre de la résurrection, si notre vie a un poids d'éternité dès maintenant, que peut-être d'autres verront quelque chose de Dieu là-dedans. Et puis c'est peut-être aussi repérer chez l'autre cette vie dense. C'est pas seulement un sens unique, c'est vraiment dans les deux sens. C'est voir dans ceux qui m'entourent combien la vie est profonde et vivante et combien la résurrection les anime, alors même que peut-être ils n'y croient pas eux-mêmes. Mais c'est dire à l'autre que sa vie a bien plus de prix que ce qu'il peut en percevoir d'emblée.
Et des signes de résurrection, Frédéric Van Der Bos.
Oui, mais ce qui me venait en vous entendant, c'est cette parole de Saint Paul qui dit « Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur », c'est-à-dire nul ne peut dire que Jésus est ressuscité s'il en est l'attestation par l'Esprit Saint. Donc la résurrection n'est pas une question de croyance. Donc on peut absolument pas convaincre les gens de manière idéologique à la résurrection. On ne peut qu'en attester à travers notre vie et à travers la relation qu'on a avec les autres.
C'est la célébration de la liberté de chaque être humain. Et l'ascension a justement eu lieu pour ne pas convaincre par des faits, mais laisser ce qui est de l'ordre de l'image de Dieu en chaque homme, sa liberté, sa pleine liberté de le confirmer.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire? On arrive au terme de l'émission, mais je ne suis pas sûr qu'on fasse une émission sur la Pentecôte. Alors, peut-être un petit mot pour l'Esprit-Saint, parce que la résurrection, il est à l'œuvre dans cette résurrection. On parle forcément de la résurrection du Christ, mais Anne Lécu?
C'est l'Esprit du Christ ressuscité, donc c'est sa présence en nous aujourd'hui. L'Esprit. Et je crois que l'Esprit, c'est un principe d'incarnation, c'est-à-dire c'est lui qui nous rend nous-mêmes, qui nous fait devenir qui nous sommes.
Voilà, il ressuscite même le Fils de Dieu, donc le Christ, donc dans ce même esprit, on était appelé à être ressuscité chacun de nous en tant que fils, fille, enfant de Dieu.
J'aime à dire qu'il n'y a rien de plus concret que l'Esprit Saint. L'Esprit, c'est l'Esprit Saint qui incarne. Voilà. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas d'incarnation.
Ça veut dire que ce sera
pas de résurrection.
Un prochain dossier. Est-ce que vous pensez, Félicité de Mauvoux, que la foi en l'Esprit Saint est quelque chose qui peut se mesurer aussi ou non? Enfin, je vois que vous êtes sceptique. Faudra mener l'enquête, c'est ça?
Ouais, prochaine enquête.
Allez, je vous donne 15 jours et puis on réfléchira à ça. Bien sûr, on a parlé de la résurrection. J'ai envie que vous me disiez quelques mots sur le parfum, parce que votre livre, Anne Lécu, tu m'as consacré d'un parfum de joie. Parfum, joie, résurrection, tout ça, ça marche ensemble?
Ça marche assez bien ensemble, oui, ça se matche bien. Le parfum, parce que c'est comme le Christ. Le parfum, quand vous avez un flacon de parfum et qu'il est fermé, on ne sent pas l'odeur. Mais il faut l'ouvrir et donc perdre le parfum pour qu'il embaume la pièce. La vie du Christ, c'est ça. Il se perd lui-même pour donner sa vie pour d'autres et pour que nous en vivions. Et cette vie se déploie bien au-delà de ce qu'on aurait imaginé, un peu comme un parfum reste dans une pièce bien après le départ de celui qu'on aime et dont on reconnaît l'odeur. Eh bien, c'est une sorte de présence élargie, ce parfum. Et peut-être que c'est une manière un peu sensible de qualifier autrement la résurrection et l'Esprit Saint.
Et ça traverse en nous. Ça traverse nos puanteurs et pourritures. Hein,
ça traverse, ça les recouvre.
Que vous, n'évacuez pas.
Voilà.
Julia,
il y a même les reliques, je pense actuellement, qui émanent le parfum des saints.
La bonne odeur des saints.
Voilà. Et c'est aussi un témoignage que la matière peut être transfigurée et en témoigner d'une façon qui nous dépasse.
Eh bien, merci tous les quatre. Comme ça, on termine en odeur de sainteté pour parler de cette résurrection. Peut-on croire encore à la résurrection aujourd'hui? Je pense qu'on a donné quelques éléments pour y croire un peu plus, même si on n'a jamais fini. Et vous l'avez dit aussi, hein, c'est un chemin, hein, c'est tout un itinéraire. Pour prolonger l'émission, je vais rappeler le titre de vos livres. Tu m'as consacré d'un parfum de joie. C'est le livre d'Anne Lécu qui est tout juste sorti aux éditions du Cerf. Ce bonheur qui vient dans la chair, Frédéric Van Der Bos, c'est aux éditions Encre et Étoile. La synergie entre la grâce divine et la volonté de l'homme. Faut pas oublier la volonté peut-être, hein, on n'a pas eu l'occasion d'en parler trop. Julia Vidovitch, c'est paru aux éditions du Cerf l'an dernier. Merci à Pierre Samenos qui était à la réalisation. Merci à Félicité de Maupoux pour sa participation. Pour vous retrouver aussi hein, le dossier dans Pèlerin de la semaine dernière. Et celui de ce jeudi évoquera évidemment Notre-Dame et sa reconstruction, on va quand même pas dire résurrection, il s'agit de Pierre. Grand temps que c'est fini pour aujourd'hui. D'ici là, eh bien, n'oubliez pas sur le site www.rcf.fr, vous pouvez podcaster l'émission. On se retrouve la semaine prochaine.